Bonsoir Ousmane Bachelot.
Bonsoir cher ami tout seul.
Oui, mais heureusement que vous êtes
Esselé,
là.
Bonsoir Alain.
Heureusement
bonsoir.
Que vous êtes là tous les deux.
Nous sommes deux.
Bonsoir
oui,
voilà. Alain Duhamel.
Ce qui est mieux pour les débats.
On
c'est
va
mieux.
Parler avec vous des 100 jours de Donald Trump. Le président américain est en difficulté, mais écoutez, regardez-le hier soir en meeting.
Nous sommes ici ce soir, au cœur même de notre nation, pour célébrer les plus beaux 100 premiers jours de tout mandat dans l'histoire de notre pays. Beaucoup, beaucoup de personnes pensent que ce sont les 100 plus beaux jours. Ce sont les 100 meilleurs premiers jours de tous les présidents de l'histoire. Beaucoup de personnes le disent. Et ce n'est que le début. Vous n'avez encore rien vu.
Voilà, on n'a encore rien vu. Si on regarde de près quand même, son pays connaît un ralentissement économique assez important et rare, puisque la croissance américaine en général se porte bien. Pas de cessez le feu en Ukraine, c'était pourtant une promesse. Il s'est fâché avec une bonne partie du monde. Il a déstabilisé le commerce international. Et regardez ces sondages de popularité ou d'impopularité qui s'installent. Les Américains ont été questionnés. Avez-vous honte de Donald Trump? Oui à 56%. Non à 44%. Et quand on interroge les électeurs trumpistes, est-ce que vous regrettez votre vote? Eh bien, regardez le résultat. Certes, 76 disent non. Enfin, 24%, ce n'est pas rien, après 100 jours, disent oui, je regrette d'avoir voté Donald Trump. Alain Duhamel, est-ce que Donald Trump a déjà échoué?
Ben non, on peut dire qu'il commence particulièrement mal. On ne peut pas dire qu'il ait déjà échoué, d'abord, parce que au bout de 100 jours, c'est trop tôt. Bon. Ensuite, parce que il est déjà parvenu à concentrer tous les pouvoirs comme aucun président américain auparavant et comme d'ailleurs pratiquement aucun homme au monde dans ces proportions-là. C'est-à-dire qu'évidemment, il a des adversaires, c'est-à-dire qu'il a des résistances dans l'appareil judiciaire, chez des intellectuels, dans des universités, je ne dirais pas chez les démocrates parce qu'ils sont hors course pour l'instant. Enfin bon, il se heurte à des résistances, mais... il est en train de gouverner à coups de décrets présidentiels et à détruire tout ce qui est sur son chemin et qui est susceptible de gêner, de ralentir ses intentions. Et donc ça, c'est une force qu'il est en train de constituer et qui n'a pas de précédent. Il est l'homme le plus puissant du monde de ce point de vue. Bon, ensuite, parce que il est arrivé déjà à faire bouger tout le monde. Il fait bouger les Chinois, on voit très bien qu'ils sont obligés de rétorquer, etc., et de réorienter les flux de leurs exportations, malheureusement, vers nous. Mais on voit bien, tout le monde bouge, et tout le monde bouge pourquoi ? À cause de lui, à cause des mesures à la fois aberrantes, contradictoires, mais enfin, il fait bouger. Bon, et puis il y a un sujet sur lequel il a marqué un point, avec des méthodes tout à fait répréhensibles, mais il a marqué un point, c'est l'immigration. Où, effectivement, il est arrivé à bloquer. Alors, est-ce que ça va durer? Et est-ce que les moyens employés sont résistibles ou pas? Ça, on verra bien, mais il a essayé. Alors, bon, maintenant, pour le reste, évidemment, il y a un tas de choses qui sont déjà complètement déréglées. D'abord, il y a une catastrophe pour l'écologie qu'il est en train de mettre en place, et une catastrophe pour les pays pauvres, pour simplifier, ces décisions vont déclencher l'apocalypse pour beaucoup de pays les plus pauvres. Bon, ensuite parce que il a introduit avec une rapidité exceptionnelle une désorganisation des marchés financiers hallucinante et qu'il a été obligé de reculer face au marché. Il a été obligé de reculer. Lui qui se présente comme omnipotent, lui qui est l'homme le plus fort du monde, eh ben il a dû faire machine arrière sur les prix à l'importation, sur... Bon, il est même arrivé, ce qui est quand même extraordinaire en si peu de temps, à affaiblir réellement le dollar. C'est-à-dire pas simplement la variation de coût du dollar par rapport aux autres monnaies, mais le dollar en lui-même. Bon, si on ajoute à ça que, et en ce qui concerne l'Ukraine... et en ce qui concerne Israël et les Palestiniens, il n'arrive à strictement rien. Eh ben, on peut dire, il commence très mal.
Ousmane Bachelot.
Les 100 premiers jours de Trump sont catastrophiques pour les États-Unis. Et je regrette finalement qu'on ne regarde que les enjeux internationaux, que les enjeux économiques. Moi, ce qui me frappe, et que le sondage dont vous avez donné les chiffres dit en filigrane, c'est la perte de l'influence morale, spirituelle et culturelle des États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui installe dans la société américaine, dans l'impérium américain, dans ce qu'on définissait comme le leader du monde libre, des choses absolument catastrophiques. D'abord parce que il met finalement des opinions publiques en mouvement. Ce que je trouve très intéressant, c'est le résultat des élections au Canada. Il n'y a pas eu de consignes de données. Mais au Canada, les libéraux sont revenus du placard de la mort. Et certes, la victoire était triquée, mais ils ont pris 25 points. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant. Tesla, l'abandon, enfin le recul sur certains marchés est absolument incroyable. Ça, ce sont les opinions publiques, sans consigne des dirigeants. Les opinions
publiques. Ça vaut tous les sondages.
Les opinions publiques se mobilisent. Et cet impérium des États-Unis, par exemple, je pense à. C'est la patrie des prix Nobel, les États-Unis. C'est finalement, quand on regarde les prix Nobel de médecine, enfin de physiologie, on dit, de chimie, de physique. Il y a depuis 50 ans, dans la trilogie des prix Nobel de physique, il y a toujours un Américain. Il n'y a jamais un Américain qui est manquant dans ce palmarès. Également sur l'économie. Quand on voit ce qui est fait dans les universités, que ce soit Berkeley, Columbia, etc., c'est quelque chose qui va se payer d'une façon absolument incroyable dans l'impérium des États-Unis. Ça, personne n'en parle parce que personne ne le voit. On n'en voit pas les difficultés. Je pense à quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, le retrait des États-Unis de l'OMS. Certes, il l'avait décidé dans son premier mandat, mais Biden était revenu sur cette affaire. Si demain, on est frappé par une pandémie mondiale, la responsabilité des États-Unis sera terrible. Les opinions publiques vont se retourner, parce que c'est le principal contributeur de l'Organisation mondiale de la santé. Alain a très justement parlé du retrait du traité de Paris sur le climat, mais c'est cette perte morale des États-Unis. Vous savez, il y a une chose dans la culture, dans le spirituel, quand on l'a tué, ça ne se rattrape jamais. On peut rattraper la bourse, on peut rattraper l'immigration. La perte de l'impérium spirituel, ça se paye cash et à long terme.
Alors, je suis complètement d'accord sur cette dimension-là. Elle n'est pas définitive, non pas par rapport à Trump, parce que ça m'étonnerait que Trump tombe maintenant amoureux de Harvard, c'est fini ça.
J'ai pas parlé de Harvard.
Il est en bagarre contre toutes les grandes universités et contre tous les grands scientifiques, et d'ailleurs contre tous les grands intellectuels américains. Bon, ce qui sera perdu, sera perdu. Les chercheurs qui seront partis, et incontestablement, la réputation des États-Unis sous Trump s'effondre inévitablement, alors même que, notamment en Europe, et en Europe notamment en France, qui théoriquement était la plus résistante, la victoire morale totale des États-Unis, c'était quelque chose de relativement récent. C'est ne date pas de la libération des années 50 ou des années 60. On a vu brusquement que c'était la culture américaine qui avalait toutes les autres. Et ça, effectivement, Roselyne a raison, il remet ça en cause. Maintenant, est-ce que c'est définitif? Après lui, il peut très bien y avoir au contraire un président éclairé qui se précipite pour restaurer le statut des universités et qu'il fasse le maximum pour effacer ce que Trump tente de faire. C'est tout à fait imaginable parce que plus il est brutal, plus il est aussi ambitieux dans ses objectifs. Enfin, il a des objectifs totalement démesurés à l'échelle mondiale. Mais plus il prend ces risques-là et plus il peut avoir un choc en retour terrible et après lui, quelqu'un dont l'objectif numéro un soit de défaire ce qu'il a fait.
Oui, mais il partira avec des brodequins d'acier et il aura perdu.
Ah, mais bien sûr.
Je pense que ce qui est très curieux...
Ah bah oui, mais alors, pour vous, au bout de 100 jours, il a déjà perdu.
Il n'a pas perdu parce que ce sont des effets de long terme. On ne récupère pas des pertes intellectuelles, des laboratoires de recherche, des professeurs qui partent. Regardez ce qui se passe dans... Et donc, Trump ne parle jamais, cet impérium de la culture américaine cinématographique, des plateformes, du show business, de la chanson, etc. C'est une hégémonie américaine considérable. Et évidemment, dans le déficit commercial qu'il impute aux autres pays, il ne compte jamais ses biens et ses services qui, en fait, rééquilibrent considérablement cela. Et alors, il y a un autre sujet qui est capital, c'est celui de l'intelligence artificielle. Il y a une hégémonie américaine considérable sur cette question de l'intelligence artificielle. Tout ce qui sera perdu, après tout, on pourra d'ailleurs tirer notre affaire de cette affaire. Ouais. On peut essayer.
Oui, bien sûr.
On peut essayer.
Oui.
Olivier ne croit jamais qu'on soit capable de faire quelque chose.
Oui,
de
c'est
bien.
Ça. Non, bah, mais...
L'intelligence artificielle, beaucoup disent qu'on a déjà perdu le match en Europe.
Oui, mais
on voit des startups européennes et françaises qui, justement, au contraire, marquent des points.
Des
Français qui vont travailler aux États-Unis.
Et là, ça sera peut-être des ingénieurs américains qui vont venir en Europe et en France.
Il faudra les payer. Mais je voudrais qu'on parle de la guerre en Ukraine, puisque Donald Trump, c'était l'une de ses promesses électorale très forte, en 24 heures, je règle le conflit. Il n'y est pas arrivé.
A dit qu'il avait été sarcastique.
Oui, néanmoins, il a quand même, excusez-moi, bougé les lignes. C'est-à-dire qu'avant, on ne parlait pas de cessez-le-feu. Certes, on n'y est pas, mais enfin, on en discute, les positions bougent, c'est indéniable.
Mais il a joué les matamores. Et c'était même des matamores... aveugle, dans la mesure où dire en 24 heures j'aurais réglé quelque chose, personne ne pouvait croire ça. Mais il n'a pas fait vraiment avancer les choses, mais en revanche, il a imposé des approches différentes de celles qui existaient. Alors malheureusement, je crains que ce ne soit pas de bonnes approches. On peut même redouter que ce soit les pires approches. C'est-à-dire qu'en gros, il a quand même été sur le terrain où souhaitait le mettre Poutine. Et jusqu'à présent, même s'il y a quelques signes d'agacement récents, mais jusqu'à présent, il n'a pas bifurqué par rapport à ça. Autrement dit, il part en pensant que la Crimée, c'est pour la Russie, en pensant que l'OTAN, c'est certainement pas pour l'Ukraine, que d'ailleurs l'Europe n'a pas grand-chose à y faire,
vous
etc.
Vous pensez que
etc.
L'Ukraine va récupérer la Crimée ?
Mais peut-être que moi je ne le pense pas, mais ce que je pense, en l'occurrence, n'a strictement aucune importance. En revanche, ce que lui en pense, ça en a. Parce que si lui part du principe que de toute façon la Crimée, c'est maintenant pour le retour à la Russie, où elle était auparavant, à ce moment-là, c'est ce qui va se passer. Et à partir de la Crimée, évidemment, la question c'est de savoir si dans les quatre principaux... on dirait, nous, départements ou régions.
Les oblasts,
Dans lesquels, aujourd'hui, les Russes ont avancé, avec le même raisonnement, il peut dire, on peut enlever 20%, puisque c'est ça, en réalité, la proportion, 20% du territoire aux Ukrainiens, et qui ne se plaignent pas, et à qui on refusera, en plus, les moyens de défense ultérieure. Et si on fait la liste de tout ça, ce sont les objectifs de Poutine.
Oui, mais enfin, ce qui est vraiment, ce qui apparaît à l'opinion publique, c'est qu'on a une administration américaine de politique étrangère qui est pilotée par des incompétents, gens qui ne connaissent pas les sujets. On a l'impression qu'ils savent même pas sur la carte où est l'Ukraine. Et ils ont en face d'eux une diplomatie russe qui, elle, est très, très bien organisée. Depuis toujours, la diplomatie russe est une des meilleures diplomaties du monde, avec des diplomates qui manient aussi bien le pistolet de combat que les courbettes diplomatiques. Ce qui en fait des bons diplomates, d'ailleurs. Et je trouve que cette affaire est un échec. Enfin, un échec de ce qu'il avait voulu, de ce qu'il avait promis, de tout lâcher dès le départ de la négociation, alors qu'évidemment, on négocie en se disant qu'on va vers un point final de lâcher un certain nombre de choses. Il a réussi quand même, enfin, disons, les Européens ont réussi à faire passer quelques messages. Et je dois dire que ce que dit Donald Trump aujourd'hui est quand même très différent de ce qui s'est passé dans le bureau ovale le 28 février.
Ah oui.
Il s'est heurté au mur de la réalité.
Avec Zelensky, le président ukrainien.
Oui, qu'est-ce que j'ai dit?
Non, mais je rappelle cette scène qui était avec le président ukrainien.
Avec le président ukrainien
qui l'a agressé verbalement avec son vice-président.
Mais cela s'est retourné aussi contre lui, parce qu'il est apparu comme un être profondément malfaisant face à quelqu'un qui est plus faible. Le but de la négociation, c'est pas d'humilier un adversaire, c'est au contraire de l'amener vers soi.
Oui, mais
c'est un échec total.
L'ennui, c'est que ça, Trump ne peut pas s'en empêcher, parce que humilier, c'est ce qu'il a fait toute sa vie.
Oui.
C'est sa technique de négociation. C'était sa spécialité aussi longtemps qu'il avait sa propre émission à la télévision.
Oui, mais ça marche dans un jeu télévisé.
C'était une télévision qui était uniquement sur le fait de ridiculiser ses invités les uns après les autres. Et on voit très bien, c'est son tempérament.
Un dernier mot quand même sur, parce que le temps passe, il reste une minute, sur peut-être une chance pour Emmanuel Macron d'exister de nouveau sur la scène diplomatique face à ceux qui agitent le monde, qui le bouleversent, et peut-être d'incarner un pôle de stabilité.
De toute façon, même si les Français ne s'en seront pas toujours aperçus, il n'a jamais disparu sur le plan diplomatique.
Oui.
Mais ce qui est vrai, c'est que depuis Trump, il a des hypothèses, des possibilités nouvelles.
C'est une chance pour lui.
Et qu'en plus, il a quand même l'avantage sur un certain nombre de points d'avoir été pionnier et de voir maintenant la réalité. Son thème, pour prendre le plus simple, son thème sur la défense européenne, c'est lui qui l'a proposé depuis 2017 avec constance, au début dans l'indifférence générale de nos partenaires, moyennant quoi il commence à se dire « Ah ben oui, il faudrait peut-être qu'on pense à se défendre » et que même les Britanniques, après le Brexit, commencent à revenir vers nous, notamment à propos des problèmes de défense. Donc évidemment, son rôle va être croissant.
La France a toujours existé sur le plan international. Elle est membre du Conseil permanent des Nations Unies, elle est membre du G7, G8, etc. La France a toujours existé. Les présidents de gauche ou de droite ont existé. Emmanuel Macron existe à la suite de tous les présidents de la Ve République.
Et vous pensez, un dernier mot, est-ce que vous pensez qu'il peut changer Donald Trump?
Ah oui, bien entendu. Il va pas devenir poli. Il ne va pas devenir cohérent, il ne va pas devenir cultivé.
Parce que c'est son dernier mandat, donc il se prépare sa sortie.
Avec lui, on ne sait jamais.
Oui, hein, d'accord. Bon,
on ne sait jamais. Alors là, je ne suis pas en train de fantasmer. Rappelez-vous ce qu'il a fait devant le Capitole, quand même.
Oui, d'accord.
Alors, tout est possible avec lui.
Non, il ne va pas changer.
Mais
il ne changera pas pour vous.
Non, il ne changera pas. Les événements ont changé.
Non, moi je dis, il ne peut pas changer lui, mais il peut faire...
Pas lui, pas de caractère.
Il peut faire
volte-face. Mais dans sa politique, voilà.
Ah oui, ça, tout à fait.
Bon, merci, on verra les 100 prochains jours. Merci à tous les deux.